France Musique. Musique et moi.
Gaspard Proust.
Priscille Lafitte. France Musique.
Le maître ne court pas après le pouvoir. Ainsi est-il vraiment puissant. L'homme ordinaire est tendu vers le pouvoir. Ainsi n'en a-t-il jamais assez. Le maître ne fait rien, mais ne laisse rien d'inachevé. L'homme ordinaire sans cesse fait des choses, mais il en reste toujours plus à faire. L'homme bienveillant fait quelque chose, mais quelque chose demeure inachevé. L'homme juste fait quelque chose et laisse de nombreuses choses à faire. L'homme moral fait quelque chose, et quand personne ne réagit, il retrousse ses manches et utilise la violence. Quand l'harmonie se perd, il y a la bienveillance. Quand la bienveillance se perd, il y a la morale. Quand la morale se perd, il y a le rite. Le rite est l'enveloppe de la vraie foi, le début du chaos. Ainsi le maître s'occupe de la profondeur, et non de la surface, du fruit, et non de la fleur. Il n'a pas de volonté propre. Il vit dans la réalité et laisse toute illusion passer.
Thank you.
Bienvenue, Gaspard Proust.
Bonjour.
Dans Musique et moi, merci d'être là ce matin, face à la Tour Eiffel, dans les studios de France Musique.
C'est vrai.
Vous venez de faire dialoguer un texte de sagesse de Lao Tzu sur la décadence, avec la 9e symphonie de Mahler, dernière symphonie achevée en tout cas, son testament, ses adieux. Elle était ici interprétée par Leonard Bernstein à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Est-ce que cette œuvre a à voir avec une forme de renoncement à agir sur les choses ? Mahler était-il taoïste ?
Ah, ça, j'en sais rien. Il faudrait lui demander. Je ne sais pas s'il a lu ses textes. C'est pas impossible. Alors, vous dites, c'est la 9e, en fait, c'est sa 10e. C'est vrai qu'il était superstitieux. Il a fait le chant de la terre, qui en fait était sa 9e, parce que si j'écris la 9e, du coup, ça sera ma dernière. Donc, je vais tricher avec le destin et je vais faire le chant de la terre, etc. Finalement, ça lui a pas réussi. Oui. Puisque c'était sa dernière. Enfin, il y a un bout de 10e, je crois, mais enfin.
Que le premier mouvement, effectivement.
Que le premier mouvement. Donc, pour revenir à votre question, c'était, est-ce que c'est un peu son chant du cygne? Non?
Oui.
Pourquoi
faire dialoguer ces textes de sagesse avec cette symphonie de Mahler?
J'ai l'impression qu'il a écrit la 8e, donc je vais toujours répondre un peu à côté.
Mais bien sûr, allez-y.
Par une espèce de foi mystique, je crois, de chrétienne à un moment, et donc il avait écrit sa 8e où tout est très joyeux. Et dans le dernier mouvement de la 9e, il revient à une sorte, il remet en place, vraiment dans le dernier mouvement, c'est quand même assez net. D'un côté, la pulsion de vie qui s'en va, et l'acceptation d'un espèce de vacuum un peu stérile, d'un quelque chose de très éthéré. Et en fait, la symphonie se termine comme une espèce de très lente décomposition, comme les filets d'une araignée, vous voyez, c'est d'une toile qui petit à petit se sépare. Et en fait, c'est fait d'une manière extraordinaire. Alors, c'est pas forcément une œuvre très gaie, mais enfin, on pourrait pas non plus dire que ce soit triste ou pathétique. Et il y a une forme de méditation dans ce dernier mouvement qui me touche beaucoup et que j'ai aimé assez rapidement en fait en découvrant cette œuvre.
Je vous voyais diriger l'orchestre.
Je bouge des mains. Si,
c'est toujours ainsi que vous
diriger,
écoutez.
On est tous des chefs d'orchestre.
C'est ça.
Je pense.
C'est toujours comme ça que vous écoutez la musique?
Ah, les trucs que j'aime vraiment, ça me fait. Je vais même plus loin que ça. Ça me fait danser quoi.
Ouais.
C'est tout le corps qui bouge. Je ne contrôle plus rien.
Alors, vous avez deux dates prochainement à la scène musicale, les 5 et 6 novembre, je crois, avec votre dernier spectacle. Vous donnerez les 4 et 11 novembre à la Maison de la Radio, ici même, un carnaval des animaux aux côtés des musiciens de l'Orchestre National de France. Et enfin, un spectacle lancé il y a 4 ans, je crois. Je n'aime pas le classique, mais avec Gaspard Proust, j'aime bien.
C'était 4 ans, 3 ans, oui, c'est possible. Oui.
Vous allez le redonner le 4 décembre prochain à Salle Pleyel. Vous avez donc l'habitude d'exprimer en public cette intimité qu'il écoute musicale.
Oui, c'est une vraie question, c'est pour ça que je vais arrêter, parce que je trouve que ça devient trop intime. Donc, mais effectivement, c'était un projet à un moment. On a toujours besoin, quand on fait beaucoup de trucs, de changer les idées. Je me dis, tiens, la musique classique. Mais ouais, je ne suis pas sûr que je vais continuer ça.
Il faut surmonter une certaine pudeur.
C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est beaucoup plus facile de parler des choses qu'on n'aime pas que des choses qu'on aime. Enfin, pour moi, en tout cas, pour mon type de caractère.
Oui, c'est un tout autre registre.
Parce qu'on se met à poil.
Celui de la répartie, de la vanne, de la répartie qui fait mouche.
La petite provoque, mais bien sûr. Évidemment.
Et donc, vous parvenez à faire cohabiter musique et humour. C'est une gageure. Nous allons faire votre portrait en musique ce matin, voir ce que cette playlist dit de vous, hors de la scène, de votre musicalité. Nous allons convoquer ce matin Mozart, Beethoven, Wagner, mais aussi le jazz de Brad Meldow et le clavier de Bach. Et pour commencer, on retourne aux sources de toutes choses, la création de Haydn et le Requiem de Mozart.
Thank you.
De la création Die Schöpfung de Joseph Haydn, dirigée par Karajan, précédée du Lacrimosa du Requiem de Mozart sous la baguette de Karl Böhm, l'oratorio de la création et le chant des morts, l'alpha et l'oméga. C'est pas léger comme entrée dans la musique classique, Gaspard Proust. Vous avez souhaité qu'on les écoute en même temps d'ailleurs, pourquoi ?
Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai découvert. Je me souviens très bien, on est allé, c'était des amis de mes parents qui avaient les 100 classiques de la musique classique. C'était un coffret Deutsche Grammophon et il y avait tout ce pan, ouais, qu'est-ce que c'est que la musique religieuse, l'opéra, etc. Et puis c'était par genre, il y avait opéra, musique de chambre, machin. Et du coup, c'est ces deux choses qui sont sorties parce que c'était par pure curiosité, tu vois, j'ai commencé à écouter ça et donc je suis tombé là-dessus. Et parce que j'ai joué vraiment le jeu, qu'est-ce qui a commencé au départ ? Mais c'est vrai que c'est des œuvres, autant Haydn, la création, c'est une œuvre que je n'ai cessé d'aimer de plus en plus, alors que le Lacrimosa, quand je l'écoute aujourd'hui, c'est une hérésie ce que je vais dire, mais ça me touche plus du tout. Mais je vous le dis franchement, mais j'étais un garçon un peu adolescent et dramatique, toujours un peu, et je pense que ça devait correspondre à une époque où... C'est très beau plastiquement, mais en fait, j'ai une théorie sur
Mozart. C'est pas la version la plus légère en plus, hein. Il y a eu des...
Bah après ça reste un requiem, y a personne va danser là-dessus a priori.
Ah bah si. Si, figurez-vous.
Ah, il y a une version joyeuse. Ah, bah écoute,
Romeo Castellucci a fait une mise en scène où le chœur Pygmalion danse sur les requiems de Mozart. Donc, il en a fait quelque chose de beaucoup plus léger. Mais vous retenez d'ailleurs de la création de Haydn un chœur plutôt que des parties solistes. Pourquoi ça a attiré votre oreille ?
Oh, je ne sais pas, j'aime peut-être un peu les choses massives. Ou je ne sais pas. Non, c'est vrai, il y a des beaux morceaux de soliste, mais c'est l'impact qui s'est produit à ce moment-là quand j'ai entendu ça. Mais il y a des super versions. Mais pour Mozart, vous voyez, et j'ai découvert en même temps Don Juan, qui est l'œuvre sur laquelle on va arriver après. Et en fait, pour moi, Mozart, c'est l'opéra. Et j'ai l'impression que tout ce qu'il a écrit, ce ne sont que des opéras déguisés.
Bien sûr, vous avez bien raison.
C'est vrai ?
Oh, absolument.
Siamo tutti morti. Thank you.
C'est la version enregistrée par Carlo Maria Giulini avec Eberhard Wächter en Don Giovanni, Gottlob Frick en Commandeur, Giuseppe Taddei en Leporello. Comment écoutez-vous cette œuvre en entier? Par petits bouts, en isolant les airs? Vous allez à l'opéra d'ailleurs?
Non, je ne vais pas au concert. C'est très 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 rare. Tu vois, je peux compter sur les doigts d'une main les concerts classiques. Je n'ai pas cette culture de la sortie.
Donc vous l'écoutez en disque?
Oui, je l'écoute en disque.
C'est pas des mises en scène, de DVD, etc. qui vous
intéressent? Non, moi, la mise en scène, je ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est la musique. Vraiment.
Ouais.
Non, mais c'est beau, les costumes. Hein. Il y a des jolis costumes.
Non, mais il y a des intentions aussi.
Pardon.
c'est que vous préférez vous mettre vous-même, inventer vos... Et imaginer les intentions derrière.
Non, parce que l'histoire, je la connais, je la lis.
Oui.
Vous voyez. Donc après, c'est ce qui... travail. Je veux dire, si on coupe la musique et qu'on met des très beaux costumes, ça ne servira plus à rien, alors que l'inverse existera toujours. Mais c'est peut-être un peu radical comme point de vue,
oui.
mais c'est à la mode apparemment en ce moment. Donc voilà.
Mais voilà. Contre-pied à ça. C'est donc la scène du banquet ici. Don Giovanni et Leporello se baffrent. Hein. Ils profitent des plaisirs de la table quand le commandeur surgit avec sa voix de basse. Est-ce que je peux vous demander quelle voix vous cherchez, vous? Quel effet vous cherchez à produire avec votre voix quand vous êtes sur scène? Est-ce que vous la travaillez?
Non, pas du tout. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion avec mon régisseur la dernière fois, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il me dit que tu devrais faire des exercices, tu sais, les A, E, I, les voyelles, tout ça. Donc ça fait 10 ans que je fais ce métier, je n'ai pas fait une fois des vocalises ou je ne sais quoi. Donc non, la voix, en fait, je la chauffe un peu malgré moi au départ. Et puis après, ça, ce qui compte, c'est comme le spectacle, en gros, c'est une phrase. Hein, si on est dans l'idéal, c'est ça. Donc c'est la fluidité, le sens du rythme et l'articulation. Enfin, il faut que les gens comprennent tout ce que je dis.
Mm-hmm.
Ce qui, sur 1h30, 1h40, n'est pas forcément facile à tenir. Donc, on sent les jours où on est fatigué, les jours où on ne l'est pas.
Mm-hmm. Mais à quoi êtes-vous sensible, là, dans les voix, par exemple, de ces chanteurs-là?
Alors encore, c'est toujours, quand on fait une liste de 11, c'est toujours ingrat, parce qu'on oublie, on aimerait mettre... Moi, j'aime plutôt les voix de basse. Donc, j'adore les voix de basse. Par exemple, dans La Flûte Enchantée, ce que je préfère, c'est Zarastro. C'est la voix de Zarastro. Ou, à l'inverse, la voix de Pamina. Mais en même temps, si vous demandez mon idéal féminin en termes de voix, ça serait plutôt Kathleen Ferrier qu'un contralto. Donc, une basse plutôt un peu féminine, enfin, ce timbre-là.
Mm-hmm.
Après, comme il y aura Wagner après avec Kirsten Flagstad, ça reste c'est une soprane. Mais c'est une soprane... Enfin, c'est pas la Callas, quoi. Que j'aime par ailleurs dans certains trucs, hein, mais voilà. Mais après, si vous demandez ma voix... idéal, je dirais que c'est Kirsten Flagstad quand même.
Vous chantez pas du tout
Non, je laisse ça aux professionnels. Non. J'imagine que je me chante des trucs, mais c'est pas diffusable.
Oui, là, je vous voyais quand même chantonner.
Ah, parce que j'aime bien. Alors j'aime bien lire et j'aime bien les tournures. Par exemple, j'ai mis du Wagner, mais j'adore la manière. Alors je comprends l'allemand et tout ça, et donc j'aime. J'arrive à... C'est très
là,
difficile pour un Français.
Vous comprenez l'italien ?
Oui, c'est facile ça. C'est pas très... Oui.
Et que vous facilitez...
Bougez un peu des mains et vous y êtes. Hein.
J'entends donc que vous êtes sensible aux ouvertures et au final
d'œuvre.
Ici, c'est l'ouverture de Fledermaus, de la chauve-souris de Strauss. Carlos Kleiber dirige l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Et puis auparavant, on écoutait quand même la scène finale de Don Giovanni et auparavant, le final de la 9e de Mahler. Ça vous parle de comment on commence ou on termine un show, un spectacle ?
Oui, oui, c'est mes grandes questions d'ailleurs. Je sais pas qui disait ça, c'est que l'importance c'est l'intro, la fin et au milieu on se débrouille. Quelqu'un a dit ça une fois. Peut-être qu'inconsciemment, mais vous voyez, moi j'ai trouvé le début du spectacle, je cherche encore la fin, alors qu'on est sur les dernières dates. Donc c'est peut-être pour ça que ce qui est fascinant dans les musiques classiques, c'est qu'il y a une vraie fin. Et vous me posiez la question sur les concerts tout à l'heure. Ben, vous voyez, le concert du Nouvel An de 89 avec Kleiber, j'aurais aimé être là. Ça, c'est le genre de truc. Et en plus, je connais.
Vous l'avez vu à la télé?
Je l'ai vu à la télé, ça m'arrive de le re-regarder et j'ai eu la chance de parler à des gens qui ont été à ce concert. Il paraît que les Viennois un peu blasés qui se rendaient là tous les ans depuis 1953-54, que ça pleurait dans la salle. Les valses qu'ils connaissent tous par cœur, c'était une redécouverte. Enfin, rien que d'y penser, c'est voilà. Et c'était le concert. Il y a quelques concerts. Le problème, c'est quand on écoute beaucoup d'œuvres, ce qui a été vraiment mon cas à une époque, on a envie d'être dans le concert du siècle. Donc on se dit, j'aurais aimé être à la captation de la 9e de Mahler en 82 par Karajan, au 89, Kleiber, etc. Alors du coup, je suis allé 2-3 fois en concert, et comme j'ai remarqué que ce n'était pas vraiment le cas, bah, du coup, je suis retourné vers mes petits disques.
Mais c'est peut-être. Vous persévérez un petit peu.
Oui, peut-être qu'il faut, voilà, peut-être qu'il faut faire preuve d'esprit de souplesse, contrairement à ce que je lisais dans le Tao avant. Enfin bon, c'est tout un travail.
Par exemple, Don Giovanni, vous pouvez l'écouter avant de monter sur scène ? Ça vous arrive de vous imprégner d'œuvres comme ça pour vous mettre dans un certain état ?
Non. Non. C'était plutôt du rock que j'écoutais avant d'entrer sur scène. Mais j'ai beaucoup écouté Don Juan à une époque, quand j'étais un peu adolescent, avant de sortir en boîte. Parce que ça me chauffait le casque, un peu, ça me mettait dans une ambiance un peu artistique.
Et comme ça, vous pouviez vous aussi peut-être.
En fait, j'ai remarqué après coup que
entretenir une petite similitude avec Don Giovanni et quelque chose comme ça.
Non, mais le truc, c'est que j'avais plus de plaisir finalement à écouter la musique avant d'y aller qu'une fois que j'étais sur place. Donc, je compris que c'était une compensation après coup.
Est-ce que vous vous identifiez un peu à ce Don Giovanni qui dégaine aussi un certain humour pour mettre à distance les sentiments, qui pique par son cynisme aussi.
Non, je pense que tout le monde s'identifie à Don Juan parce que le commandeur, il vient lui reprocher, tu profites des plaisirs de la vie, parce que la scène, c'est quand même, il mange. Je ne veux pas être dérangé quand je mange, une femme arrive, mais viens, assieds-toi avec moi, mangeons ensemble, après arrive que pourra. Et il y a tout ce... C'est pas une histoire de morale, il lui demande de choisir entre le ciel et les plaisirs de la terre, globalement. Mais je ne parle pas que de la bouffe, le sexe, même l'art, un tas de trucs, les choses de la vie, quoi, le matériel. Et il lui dit, tourne la tête en haut. Et lui dit non, parce que je suis bien comme ça, j'aime ça. Et ça, je pense que tout le monde peut s'identifier à ça.
Il y a donc une dramaturgie qui vous intéresse.
C'est un peu le lacrymosa qu'on peut visualiser plus facilement. C'est-à-dire qu'on aime se faire une bonne bouffe, on aime boire un bon vin, on aime sortir avec des amis, on aime, voilà. On aime être dans l'activisme permanent, des hobbies, d'un tas de trucs. Dans l'amour aussi, dans la passion, puisque ça occupe aussi beaucoup, faut être honnête.
Et dans la mort d'Isolde. Thank you. Et les questions à nouveau de vie et de mort ce matin avec Gaspard Proust. Une nouvelle fois, vous avez choisi la fin d'une œuvre, le chant ultime d'Isolde dans l'opéra de Wagner, ici par Kirsten Flagstadt. On entend la lumière dans la voix.
C'est hallucinant. C'est surtout la résolution d'un opéra qui dure presque 4 heures, qui avec l'ouverture fait cet accord, donne cet accord qui n'est pas résolu et qui se résout par en fait la dernière note d'Isolde. Donc il y a toute cette tension que Wagner arrive à tenir sur 4 heures, 3 heures et demie. Et oui, ça parle d'amour, de mort, enfin ça, je le vois comme ça, de naissance et de mort du désir. Et le désir, à la fin, c'est une sorte de soulagement, puisque le désir est parti, la souffrance s'arrête en réalité. Et donc elle rejoint Tristan, ça après c'est la fable. Mais mettre ça en musique, voilà, c'est une œuvre que j'écoutais beaucoup à une époque, nettement moins aujourd'hui, je dois avouer. Mais c'est vrai que ça, il y a des parties comme ça dedans qui restent, parce que c'est quand même assez sombre. Hein. Le troisième acte est quand même très sombre.
Quand vous dites que vous l'écoutiez à une époque, il y a une époque où vous étiez davantage mélomane qu'aujourd'hui, où vous vous êtes vraiment abreuvé de musique.
Bah, c'est-à-dire que je sortais de la banque dans laquelle, j'ai jamais l'impression d'avoir été banquier puisque j'ai toujours fait semblant de l'être pendant 2 ans et demi, je ne voyais pas vraiment de perspective.
En Suisse, hein, c'est ça?
C'était en Suisse et puis j'ai arrêté et je me suis mis plus ou moins au chômage. J'ai vraiment traversé des années qui n'étaient pas... Et je dois avouer quand même beaucoup de temps libre et donc je passais 10 heures par jour parfois... Je voulais tout découvrir. Alors je pense pas tout découvert en musique parce que il y a des œuvres que j'ai essayé dans lesquelles j'ai essayé de rentrer 2-3 fois puis ça a pas pris. Parfois j'essaye de réécouter aujourd'hui et je me suis fait mon répertoire comme ça et donc j'ai beaucoup écouté de musique. J'ai beaucoup souvent un truc monomaniaque. Je compare la même œuvre interprétée par 20 personnes différentes. C'était un peu ça.
Et comment ça se fait que vous ayez plongé dans la musique classique comme ça? Vous auriez pu plonger dans plein d'autres choses.
C'est vrai. C'est vrai, mais parce que on est très imparfait. Alors moi, ça va être la musique, d'autres ça va être la peinture, la sculpture, la littérature, la danse, la musique, parce que peut-être que c'est la forme de langage. Enfin, c'est une forme d'espéranto en réalité. Et on comprend pas pourquoi. C'est pas logique qu'une musique puisse vous procurer les sensations que ça vous procure, alors que quelque part, elle ne dit rien.
D'autant que vous n'avez pas grandi dans la langue française. Vous avez plusieurs bagages culturels. Vous avez grandi en ex-Yougoslavie.
Alors c'était surtout quand même dans la culture française, mais à partir de l'âge de 6 ans. Si vous voulez, moi, mes amis, tout ça, enfin, je veux dire, comme j'étais au lycée français, je me suis fait la culture française, la culture qui m'est la plus proche, sachant que mes parents ne sont pas français. Et donc oui, j'ai baigné à la base dans une culture plutôt, slovène, ex-Yougoslave, appelez ça comme vous
voulez. Puis algérienne ?
Puis algérienne. Il faut avouer qu'il y avait un lycée français spécifique pour les locaux. Donc du coup, on était plutôt mélangés entre tous les expatriés, en gros, d'Afrique et d'Europe qui travaillaient en Algérie. C'était un des plus grands lycées français d'Afrique.
Et donc ensuite, cette étape en Suisse. Et donc la musique relie tout ça. La musique est une
La façon... musique est arrivée tard, vers 21 ans. Mais vraiment par curiosité. Mais ma première approche de la musique, c'était comment des gens peuvent écouter un opéra, c'est insupportable, ces gens avec des perruques, qui chantent, personne ne chante comme ça dans la vie. Et j'ai dû écouter un extrait de Don Juan, une fois, deux fois, trois fois, et puis petit à petit, tiens. Et puis au début, j'écoutais plus l'orchestre que les voix, et petit à petit, tout s'est mis en place. Et c'est vrai que les grandes... oui, ça a été... je dois avouer, ouais, Don Juan, c'est un des trucs qui m'a vraiment... AP, puis Haydn, et un truc, la 9e de Beethoven, des choses assez mainstream classiques, on va dire, au départ, mais que j'ai pas lâché, finalement.
Thank you.
Rodolphe Sirkin dans l'Arietta de la sonate pour piano numéro 32 en ut mineur de Beethoven. Vous avez donc quitté la banque pour plonger dans Beethoven et dans Mozart et ensuite faire du one-man show. Est-ce que vous avez d'emblée fait un lien entre la musique et le stand-up? Puisque, si je comprends bien, c'est au même moment.
Non, je vais commencer à... Oui, c'est plus ou moins au même moment, mais... Non, j'ai quand même séparé les deux. C'est pas... Maintenant, après coup, on me dit, ah tiens, il y a une musique sur scène, il y a un vrai phrasé, il y a... c'est très rythmé, donc ça reste une forme de partition. Mais je l'ai jamais pensé ou réfléchi à la base comme ça. Au début, je m'ennuyais, j'écris des textes. Je sais pas mieux vous dire.
Et vous avez écrit des textes sur des musiques? Vous sépariez le temps d'écoute et le temps d'écriture?
Non, mais c'est un truc. C'est est-ce que je fais des choses sérieuses et j'écris sur la musique? Ou puis après, on est toujours ramené à son petit bouffon intérieur et puis on se sent obligé. Ou naturellement, on se met à faire des... avoir un point de vue un peu sarcastique sur ceci ou cela. Ouais. C'est vrai que là, sur cette liste, il n'y a que des trucs globalement que j'aime, hein, puisque c'est moi qui vous les ai envoyés. Mais je pourrais dire beaucoup de mal de compositeurs si ça vous excite. Hein. Ce n'est pas un problème. Hein.
Mais comment est-ce que vous parlez de musique à un public? Comment vous faites pour partager
Ah, très mal. Hein. Moi, sincèrement, je ne sais pas ce qu'ils prennent en sortant. On ne fait pas de sondage pour est-ce que je vous ai converti à ceci, cela. C'est un projet. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'ai la chance de pouvoir le faire. J'essaye. Maintenant, ce que... Mais moi, j'arriverai pas à convaincre. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à convaincre des gens. Parce que votre question, c'était comment on arrive à convaincre des gens d'aller écouter ceci ou ça. Oh. Bah, je serais en plus très mal à l'aise de dire vous devez ça. Vraiment, c'est extraordinaire. J'avais au début, quand j'ai commencé à découvrir la musique classique, je cherchais forcément à partager avec d'autres gens. Et je vois que je m'y prenais extrêmement mal parce que c'est aussi une question de. C'est très injuste de sensibilité personnelle. Il y a des gens qui. Enfin. Qui vont être touchés par un truc, pas par un truc, et puis après, moi, on va m'emmener devant un tableau où, je veux dire, on va passer au suivant. Et la musique, regarde ça, c'est incroyable, regarde ce moment-là, ce qu'il fait là. Chacun a ses curseurs, on n'a pas les curseurs aux mêmes endroits. Donc essayer de convaincre quelqu'un.
Donc, soit avec soi, la musique, c'est assez solitaire en fait.
Ouais, mais l'intériorité, c'est super important, surtout aujourd'hui, je pense. C'est ce qu'il faut cultiver. Hein. Ce qui n'est pas le repli sur soi, mais c'est l'intériorité, c'est une nourriture. Quand vous lisez un livre, vous n'êtes pas deux à le livre en même temps. Bah, la musique, c'est pareil.
On aime bien parfois parler d'un livre avec quelqu'un, confronter les points de vue.
Oui, bien sûr. On parlait après, mais ouais. Dans la lecture elle-même, vous êtes seul. Les gens, quand ils vont à un concert, c'est pas... Mais ça, c'est faux, parce qu'un grand concert, il y a une communion, c'est parce qu'il y a un public, c'est encore autre chose.
Oui, c'est vrai qu'on a horreur qu'on lise derrière notre épaule.
Vous vous rendez compte? C'est un super livre, on le lit à trois. Enfin, je veux dire,
c'est un peu la même chose pour la musique.
C'est un peu... Non, mais la musique, ça pourrait... Trois potes, on se met, on écoute. Mais ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Ça marche pas toujours. Parce que chacun va aimer un truc différent. Ou même s'il entend ce que vous aimez, ça va pas forcément l'impacter. Voilà. Oui. Voilà. Et après, on change. Moi, par exemple, à un moment, Carmen, je vois pas l'intérêt de Carmen. Et aujourd'hui, je trouve ça dingue. Alliance incroyable entre le raffinement et le populaire. Vraiment pas volé, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Pourquoi je vous parle de Carmen alors que je ne l'ai pas sur la liste? Mais
alors qu'on va écouter du jazz. Alors qu'on va écouter Eric Dolphy.
Thank you.
Someone in Love, Eric Dolphy à la flûte, Booker Little à la trompette, Mal Waldron au piano, Richard Davis à la contrebasse, Ed Blackwell à la batterie.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Gaspard Proust, l'humoriste. Gaspard Proust est l'invité de Musique et moi ce matin. Vous me disiez un peu plus tôt que vous aviez commencé par écouter la musique, par exemple dans un opéra comme Don Giovanni, et ensuite vous intéresser à la voix, à la dramaturgie. Qu'est-ce que vous écoutez en premier dans du jazz, comme dans le jazz d'Eric Dolphy? Vous essayez de suivre une grille d'accords? Quelle écoute avez-vous?
C'est plus je rentre dans un univers. Alors là, je ne décompose pas tant que ça, même si j'ai remarqué que j'ai une préférence quand même pour les solos de piano à un moment. Généralement, c'est les solos de piano qui déterminent. Donc je suis relativement, je cherche pas forcément le solo de contrebasse, je vais être honnête avec vous. Mais c'est plutôt bien, et j'aime bien le. Évidemment, il y a l'ambiance, mais c'est au-delà de l'ambiance parce que c'est une ambiance qui marche en avant. Donc il y a un truc, c'est, ça tourne pas sur soi-même, même si ça revient à la fin, au départ, et machin. Mais voilà, c'est une espèce de progression. Puis il y aurait pas besoin d'avoir un avis là-dessus d'ailleurs, c'est juste que j'aime.
Vous m'aviez parlé aussi de la concomitance de vos démarches. D'une part, vous êtes enivré de musique savante. Hein, on a écouté Beethoven, on a écouté Mozart, on a écouté Mahler.
C'est de la musique savante.
Oui, c'est de la musique savante, oui. Et puis vous avez écrit des spectacles d'humour en même temps. Le jazz dans tout ça, ça s'ajoute
C'est arrivé plus tard. C'est relativement récent et c'est des découvertes un peu par hasard. J'avais mis Firewaltz d'Eric Dolphy dans le premier spectacle en bande son au départ. Et puis je découvre, forcément, j'écoutais du Billy Evans, du... Et Brad Meldo, c'est une découverte, c'est il y a 3 mois, on m'a envoyé le lien.
Ouais. Est-ce que, lorsque vous faites vos spectacles, tout est écrit? Est-ce que l'improvisation vous intéresse aussi dans le jazz? Cette capacité à rebondir, à être dans l'instant, à être juste présent à la musique.
Oui, oui, forcément, mais je ne la décortique pas. Je dis, ah tiens, c'est marrant, il a pris ce chemin-là. C'est, dans le jazz, il y a toujours ce truc, comment il va s'en sortir? et s'il va s'en sortir sans tomber dans une forme de ressassement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aime bien quand ça avance. Ouais. Et du coup, il y a des solos qui sont forcément plus réussis que d'autres.
Ouais. Vous arrivez à analyser ça aussi sur vos spectacles? Savoir quand est-ce que vous avancez, quand est-ce que...
Je peux avoir cette sensation, mais ça peut être trompeur. Parfois, on a l'impression d'avoir été super, et c'est vrai, parfois, qu'on n'a pas été si mauvais, en fait, on n'était pas très bon. Donc, c'est le ressenti personnel, généralement, j'ai plutôt confiance, mais ça ne marche pas toujours non plus.
Et donc, il y a une part d'improvisation?
Oui, parce que c'est pas vraiment... les idées sont... Non, enfin, c'est écrit, mais après, je pense que si je fais les captations de tous les spectacles, je ne dis jamais les phrases de la même manière, globalement. Et ce qui est d'ailleurs une erreur, parce que je devrais... Mais je pense que je fais exprès de garder quelque chose d'un peu flottant, par endroit, pour pouvoir donner aux gens l'illusion de voir un truc nouveau. Enfin, ou vivant, ou... Parce que si on connaît, à mon avis, hein, la matière trop au cordeau, trop précise, au point, à la virgule près, de faire ça sur une longue durée, comme c'était le cas de ce spectacle, on peut commencer peut-être à s'ennuyer ou à devenir trop mécanique. Et c'est quand même dangereux, la mécanique dans le théâtre.
Vous avez besoin de ressentir un certain risque.
Peut-être que c'est ça, oui.
Waltz for JB de Brad Meldow, qui l'a enregistré pour son album, qui célèbre 10 ans de carrière en solo sur scène. Et vous en connaissez à peu près toutes les notes. Combien de fois l'avez-vous écouté
Ah, je suis en boucle. Moi, quand un truc que j'aime bien, je sais pas combien de fois je l'ai écouté, mais je pense que les hôtels où je passe s'en souviennent.
Vous l'écoutez de quelle manière? Vous l'avez...
Alors, je l'ai même... Alors...
Vous écoutez sur des YouTube. Écouteurs
sur YouTube, et après je branche l'enceinte et puis mais je j'ai pas encore pris le temps d'acheter son album, mais je trouve hallucinant ce morceau, ce qui il est mélancolique mais il est pas triste. Il y a quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire qu'il est solaire et il y a un fond triste mais pas vraiment, enfin il est complet quoi. Il y a un truc moi qui me ce morceau me rend dingue en ce moment. Mais bon, peut-être je vais en revenir. Mais...
Donc vous partez en tournée avec une enceinte?
Oui. Que j'ai évidemment oublié ce coup-ci, mais faut bon.
Est-ce que vous comprenez ce que vit aussi Brad Meldow, qui est seul en scène avec son piano? Ça a quelque chose à voir aussi avec le stand-up, le seul en scène de Brad Meldow?
Non, je devrais pas faire ça. Je devrais respecter mon métier et me dire, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. Finalement, j'ai beaucoup d'écriture. Je donne énormément sur scène. Et c'est vrai, objectivement, c'est un vrai travail. Enfin, je sors au bout d'une heure et demie, je suis vidé. Mais voyez, pour moi, Brad Meldow, c'est un artiste. Moi, je suis un divertisseur. C'est pas pareil. Lui, c'est un artiste. Parce que il faut des années pour c'est un voilà. C'est comme ça. C'est Brad Meldow. Ça, c'est un. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est artiste. Moi, je suis pas un artiste. Brad Meldow est un artiste.
Mais vous ressentez peut-être la même solitude sur scène.
Oui, mais il y a plein de gens qui ressentent de la solitude. J'en connais des gens qui ressentent de la solitude. Ils n'ont pas besoin d'être sur scène pour ça. C'est une solitude que beaucoup de gens aimeraient ressentir, d'ailleurs. Oui. Après, il faut faire son boulot, il y a des gens devant, et donc on le fait. Mais c'est une bonne solitude.
C'est une bonne solitude.
En fait, c'est une solitude nécessaire parce qu'il faut se concentrer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devez être en contrôle, vous avez quelque chose à transmettre, vous devez être là, quoi. Donc il faut se concentrer sur son boulot.
Vous n'êtes pas conscient qu'il y a des milliers de personnes devant vous?
Ah, si, je suis conscient, ce qui me met un petit stress avant, et donc ce qui me force à pas bâcler mon travail.
Vous m'avez dit...
J'ai l'impression de dire... Non, c'est une évidence, non? Me semble-t-il.
Vous vous êtes mis au piano?
Oui.
Vous m'avez dit?
Oui. Et je me suis mis au piano cette année, alors que j'ai quand même 45 balais. Parce que quand j'ai commencé à écouter la musique, alors que c'était vraiment une connerie, j'avais 21 ans, et je me suis dit, mais je ne serai jamais Horowitz, je ne serai jamais Gould, je ne serai jamais Serkin, donc non, pourquoi se lancer là-dedans? Et vous voyez, il m'a fallu quand même 25 ans pour me dire, on s'en fout, vas-y, même si c'est pour, ok, tu joueras jamais la sonate de Liszt en si mineur. Bon. L'arietta, rêve, la fugue de la mer clavier, rêve, mais, et je m'y suis mis, et je prends un plaisir, je me suis découvert un ami, c'est quelque chose, c'est physique. Alors que je jouais un peu de guitare, mais un piano, c'est pas la même chose. J'adore cet instrument.
Et vous avez commencé par le prélude de la...
Alors on m'a fait jouer des petites piécettes, là, et puis on m'a dit, ah, ça va bien, là, je s'en fais depuis 8 mois, et donc, ça serait bien, on attaque le prélude en do mineur de Bach. En plus, c'est une œuvre que je n'ai jamais écoutée, je passais toujours à côté, parce que c'est trop simple, c'était trop... Enfin, on s'en fout du préface, voilà, c'est de la musique, on vend du jambon à la télé, enfin, c'est de la musique de pub, quoi. Aujourd'hui, ou d'ascenseur, le premier prélude.
Thank you. C'est donc le prélude en lutte majeure.
En lutte majeure,
oui. La vie bien tempérée,
ben voilà.
Sébastien Bach. Par Tsuchi Armei au piano, vous ne connaissez pas cette version?
Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas, j'aime bien. J'aime bien, c'est intéressant. Mais en fait, c'est un prélude, évidemment, comme tout Bach, qui est faussement facile, parce qu'il faut faire des variations, des couleurs, enfin, voilà. Et je ne l'écoutais jamais. Et puis quand on commence à le jouer, qu'on regarde la partition, ça devient passionnant. C'est sans fin, quoi. C'est un truc qui vous nourrit. Moi, maintenant, je le joue depuis 4 mois, mais j'y reviens tout le temps, je le joue tous les jours. Alors que je ne l'écoutais pas.
J'ai remarqué que vous êtes sensible aux tonalités aussi, parce qu'on s'est rendu compte, pour tout dire aux auditeurs, moi j'avais pensé que c'était un prélude en ut mineur, donc je cherchais le BWV 999, et puis finalement c'était le prélude en ut majeur du clavier bien tempéré, et vous avez tout de suite repéré l'erreur d'une tonalité. Vous êtes sensible aux,
peut-être
aux couleurs d'une tonalité?
Peut-être inconsciemment, oui.
Qu'est-ce qui vous a marqué là dans cette interprétation? Je vous ai entendu dire, ah tiens, ça c'est différent.
Quand elle reprend après l'espèce d'un peu climax, un peu inquiétant, et que ça redémarre à la basse, et elle fait une sorte de pause, un peu que j'avais pas vu. Ouais.
Il y a une satisfaction quand même à jouer cette pièce? Vous la trouvez?
Ah mais moi maintenant, même les plus petites pièces de débutant, Bach, de A à Z, le moindre petit rigodon, j'arrive à faire un truc pour enfants, je suis ravi. Je joue maintenant les... Il y a ça et puis un peu de jazz, genre Moon River, des trucs simples, mais moi ça me rend dingue. C'est bon. Les choristes, voyez, vois sur ton chemin, bah, j'essaye de l'apprendre, mais en fait ça m'amuse. Je trouve ça, je dis, mais c'est quand même pas mal.
Et j'imagine que celui qui compte pour vous, c'est Glenn Gould, puisque vous l'avez cité dans les variations Goldberg, qu'on va entendre à l'instant.
C'est-à-dire qu'on a tellement les oreilles préparées et façonnées par Glenn Gould, c'est quand même l'impression, alors qu'il existe sans doute, je sais que Richter, Fischer jouaient... ça, mais c'est vrai que les variations Goldberg, de Glenn Gould et certaines œuvres, oui, qu'est-ce que j'aimerais jouer à terme, forcément, ce qui va arriver après, par exemple le code Libé des variations Goldberg. Parce que c'est tellement c'est précis, c'est détaché, puis en même temps c'est habité, c'est pascalien, donc c'est compliqué de pas aimer Glenn Gould. Surtout quand, en fait, j'ai remarqué qu'au piano, le genre que je préfère, au-delà de la tonalité, c'est le genre de la fugue. Moi, c'est le truc qui me rend... voilà. C'est-à-dire, idéalement, j'aimerais pouvoir savoir jouer des fugues au piano. Mais, et alors, j'en parle avec des musiciens, ils me disent « C'est la chose la plus dure !» Formidable. J'ai bien fait de commencer à mon âge, donc voilà.
C'est donc Glenn Gould dans la dernière des variations Goldberg, juste avant l'aria da capo, et c'est effectivement une fugue que vous avez choisie.
Mais je trouve que sa clôture, enfin toute l'œuvre du manier, enfin c'est tellement simple et c'est tellement plein. Bon après c'est Bach, hein. C'est Bach, et on peut pas, j'ai l'impression qu'on peut pas tricher avec Bach, c'est-à-dire que c'est tout est, je sais, voilà. Ouais, pas remarqué, alors que je parle pas de Chopin par exemple dans ma liste.
Jusqu'où vous voulez-vous aller dans l'étude de la musique? Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que vous vous contentez d'en parler sur scène et d'être avec des musiciens? C'est déjà un aboutissement pour vous? Vous voulez aller encore plus loin?
Ah, plus loin, c'est de progresser au piano. C'est mon plus loin, il est là. Ah oui, si. jouer un bout d'Arietta, un peu des variations héroïques. Ouais, non, j'ai des idées, mais enfin, c'est toujours ambitieux quand j'en parle avec la prof. Bien sûr, en 5 ans. Si tu travailles beaucoup, donc si tu fais le Hanon, etc. Donc je...
Et comment vous faites pour travailler en tournée?
Bah, en tournée, bah, c'est, je fais de la guitare.
Ah, vous avez votre guitare avec
j'ai
vous
ma, j'ai ma guitare, mais...
Vous grattez quoi?
Un peu de... Mais non, je fais un peu de jazz, j'essaie de faire du Joe Pass. C'est pas évident, mais...
Alors, on vous retrouve bientôt sur scène dans un carnaval des animaux aux côtés de l'Orchestre National de France. Est-ce que vous avez réécrit le texte?
Je vais m'y mettre, parce qu'en fait, j'ai déjà joué le carnaval. Il y avait quelques références qui, à mon avis, doivent être passées. Donc, je vais m'y remettre, il faut que je le réécoute. Puis apparemment, Alexandre Vizorek l'a fait aussi. Donc, je vais voir un peu...
Il l'a enregistré dernièrement.
Ce qu'a fait l'épicerie d'à côté. Comme ça, on est sûr de ne pas vendre les mêmes nounours.
Donc, vous voulez qu'on écoute Alex Vizorek ensemble?
Oh bah, ouais. Je suis ouvert à toutes les propositions artistiques qui existent sur la place de Paris. Bien.
Regardant la volière, je me demande en vain. Quand les oiseaux s'insultent, donnent-ils des noms d'humains? Traitent-ils le corbeau de délateur potentiel? Ou encore l'ibis de mauvais maître d'hôtel? Dit-on à un Néron, espèce d'empereur antique? Et à un Martinet, vieux général sadique? Le canard est-il un récureur de WC? Enfin, le faucon, un authentique demeuré? Je vous demande pardon, ces jeux de mots m'amusent. Si vous les trouvez nuls, traitez-moi donc de buse.
C'est un bel esprit de camaraderie de votre
sympa.
Part, Gaspard Proust, d'écouter ensemble Alex Vizorek.
Je découvre, vous savez.
Comment est-ce qu'on fait rire sur un carnaval des animaux? C'est aussi votre but? Ou vous êtes plutôt dans le registre de la poésie?
Oh, je pense qu'ils ne m'ont pas contacté pour... Oui, je pense qu'il va falloir se mettre à ça, ouais. Alors, la poésie, je sais pas. Non, c'est bien ce qui est, c'est parce qu'il a lié les deux, c'est bien. Moi, je.
Vous savez pas encore dans quel registre vous allez.
Non, non, je sais pas. Je sais pas encore. Je vais voir ce que j'ai fait. Parce que je l'avais contextualisé à l'époque. Le pourquoi du carnaval, comment on en est arrivé là, etc. Donc, je racontais un peu. Mais il faut que je m'y remette. Mais après, j'ai le temps. C'est dans 3 jours.
C'est dans quelques jours, effectivement.
C'est dans quelques jours.
Voilà, je redonne les dates. Les 4 et 11 novembre à la Maison de la Radio. Un carnaval des animaux aux côtés des musiciens de l'Orchestre National de France. Et puis, préparez-vous aussi pour le 4 décembre à la Salle Pléiel. Je n'aime pas le classique, mais avec Gaspard Proust, j'aime bien. Ce ne sont pas les mêmes choix musicaux que ce matin, d'ailleurs, dans ce spectacle-là.
Non, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire, comme on est avec 7 musiciens. C'est vrai que faire Don Juan, un extrait de Don Juan, c'est compliqué. Il y a le Tristan Iseult, mais jouer au piano, mais qui est super.
Merci beaucoup, Gaspard Proust. Vous êtes
Merci
rare
vous.
Dans les médias, je crois. Pourquoi vous avez accepté cette invitation sur France Musique?
Ça fait longtemps que je n'étais pas passé à la Maison de la Radio. Je voulais voir si les locaux étaient bien tenus, si on se perd toujours dans les couloirs. C'est important de visiter parfois, vous savez.
Et vous avez beau fuir les interviews.
Si les gens respectent les gestes barrières. Si... on est citoyen, je crois que c'est ça le mot, non?
Et pourtant, vous remplissez les salles. Merci beaucoup,
Gaspard
Proust.
Merci à vous.
Prochaine date aussi, à la scène musicale, les 5 et 6 novembre. Un grand merci à l'équipe de ce matin. Olivier Dupré à la technique, Marie Gros à la réalisation, Marie Ferdinand pour la préparation et la mise en ligne. Passez un très bon dimanche à vous tous qui nous écoutez, ainsi qu'à vous, Gaspard Proust. Et à la semaine prochaine
merci.
Pour Musique et moi, 11h30.
À réécouter sur francemusique.fr.